Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'NBA Extra. Ça y est, la saison régulière est terminée, on passe aux choses sérieuses, celles qui nous font frétiller à partir de la mi-avril.
Enfin,
les playoffs, et pour en parler aujourd'hui, Rémi Reverchon et Chris Singleton.
Hello.
Salut Mathis, salut Chris.
Hello Rémi.
Salut les gars. Alors au programme de ces 30 prochaines minutes, donc, on va essayer de faire les previews de ces play-ins qui vont nous occuper toute la semaine sur beIN Sports et qui seront d'ailleurs à suivre en intégralité sur nos antennes. Je vais vous en douter, messieurs, je vais vous demander un peu de vous mouiller et de me donner vos pronostics afin de connaître les quatre dernières équipes qui rejoindront les play-offs. Et puis, s'il nous reste quelques minutes, on reviendra sur la première saison exceptionnelle en NBA de Victor Wembanyama qui s'est ponctuée ce week-end. Allez, petit jingle et on démarre.
Il va shooter.
Pour attaquer ces previews, on va prendre l'ordre chronologique que nous propose la NBA en prenant la direction de la conférence Ouest. On rappelle le classement final des équipes qui nous intéressent. Les Pelicans terminent finalement 7e et laissent la place de 6 qui était qualificatif directement pour les playoffs aux Suns. Une chute due à leur défaite dimanche contre les Lakers, qui eux terminent donc 8e. Et donc, comme on se retrouve, Pelicans-Lakers, les deux franchises s'affrontent à nouveau dès ce mardi à 1h30 du matin. Et le vainqueur affrontera donc le deuxième à l'ouest, Denver. Rémi, Chris, vous les fans des Lakers, comment vous sentez ce match sec, on le rappelle.
Vas-y Chris, lance-toi.
Je vais dire que je sens pas très bien pour l'histoire du basket, tout simplement. Bon, c'est bien d'avoir gagné hier, évidemment, de se mettre dans cette position-là. Le match est à Nouvelle-Orléans. Et on connaît l'histoire de quand vous jouez des back-to-back comme ça, tu bats une équipe, surtout chez eux. Est-ce qu'ils vont être capables de refaire la même performance? Et surtout, est-ce que LeBron va pouvoir? Est-ce que Anthony Kleenex Davis va être... à 100%.
Il a eu des petits problèmes de dos, on le rappelle.
Ouais, le problème de dos. Je pense que tout le monde a un problème de tout. On arrive à la fin de saison NBA quand même. Voilà, il faut y aller. Il faut mettre les chaussettes bien. Et puis, il faut jouer. Mais je ne suis pas très, très à l'aise.
Moi, je pense déjà que l'histoire du match de dimanche ne sera pas l'histoire du match de mardi, de play-in. C'est deux scénarios complètement différents. Y en a un qui s'est passé de manière très étrange, qu'on a vécu dimanche ensemble, où les Lakers les ont pris à la gorge, les Pelicans. LeBron a été fantastique, c'était génial pour eux. Mais j'ai trouvé ces Pelicans un peu apathiques, qui n'est pas leur nature de la saison. Ils ont eu des hauts, des bas, mais c'est une équipe qui nous a fait vibrer par moments aussi, quand même. Zion en est l'exemple.
Manque d'énergie.
Bah ouais. Alors que cette saison, il nous a régalé, Zion en général.
Ouais.
Donc moi, je pense que déjà, il ne faut pas du tout partir du match de dimanche comme base. Je pense que les Pelicans ont gagné le droit d'être favoris. Ils sont à domicile, ils sont mieux classés, ils ont fait une plus belle saison que les Lakers. Ils seront favoris de ce match-là, ça me paraît être évident. Il y a de l'histoire entre ces deux franchises en plus, avec les trades qu'il y a eu, avec Anthony Davis qui a fait la bascule, Brandon Ingram de l'autre côté, etc. Je pense que sur un match, on sera toujours d'accord que les Lakers, personne ne veut les jouer. Mais les Pelicans ont mérité, ils ont gagné le droit d'être favori sur ce match.
Surtout, il va y avoir un Brandon Ingram qui est de retour, qui a fait des bonnes choses, qui va être de plus en plus avoir plus en plus un impact dans cette équipe de Nouvelle-Orléans. Je ne crois pas que Zion Williamson va être inexistant comme il était
hier. Deux matchs d'affilée, bien sûr.
McCollum, c'est un bon joueur de play-off, donc play-in.
Avec un peu d'expérience.
Donc je pense que le montagne il va être très haut pour les Lakers, mais bon.
Les Pels ont un truc en plus pour eux, c'est qu'ils ont, sur un match qui n'est pas sorti de l'ordinaire comme celui de ce dimanche, sur un match NBA classique, ils ont une longueur de banc plus importante que les Lakers. Ils ont des rotations qui sont plus solides, j'ai l'impression, plus complètes. Donc, tu vois, sur un match qui est un match de play-off, ça s'appelle le play-in, mais c'est un match à la mort subite, c'est même un super play-off, si tu veux, c'est un match 7 de play-off, et j'ai l'impression qu'il y a cet avantage-là aussi pour les Pels, moi.
Entre toutes les stars qu'il y aura, Zion, LeBron, AD, Quel est le joueur quand même sur un match qui peut le plus faire la différence dans les match-ups qu'il y a?
LeBron est le meilleur exemple. Il l'a fait dimanche là, évidemment. Mais tu nous as cité des mecs qui peuvent tous faire un carton. Si sur le match, Zion en met 40, on ne sera pas surpris. Bon, Ingram est peut-être à court de rythme pour le moment. Ce sera que son deuxième match depuis le retour. Donc, je ne suis pas persuadé qu'il fasse un immense carton. McCollum peut mettre dedans. AD peut avoir un grand soir aussi. C'est difficile à prévoir. J'ai l'impression quand même que la match-up ne plaît pas trop aux Pelicans. Ils ont un peu de mal à défendre sur LeBron physiquement. C'est des match-ups intéressants tout ça, parce que Zion et AD c'est tellement différent. McCollum, il n'y a pas d'équivalent aux Lakers, tu vois, c'est bizarre.
Pour moi, vraiment le joueur clé c'est Davis, en espérant qu'il est à 100%, parce que justement les Pelicans, ils ont une grande force, c'est d'attaquer le cercle. Si Williamson, il est bien luné, McCollum, qui est un driver aussi, ils vont sans cesse attaquer le cercle, essayer de mettre Anthony Davis en difficulté, le faire travailler, le faire faire des fautes. Après, qui va défendre à l'intérieur? C'est pas la grande force des Lakers, hein. Quand il n'y a pas Anthony Davis, c'est pas Hayes qui va contrôler.
Dans ce cas-là, Davis sur Zion, c'est pas une match-up idéale, hein, pour les Lakers. Ouais. Physiquement, il est bien sûr battu. Plus grand, mais il se fait bouger en kilos. Je sais pas, c'est intéressant, que c'est marrant comme ces deux équipes ont une histoire commune depuis quelques années, et beaucoup de choses pourraient se jouer sur ce match-là. Puis il y a de l'enjeu, parce que celui qui gagne là, mine de rien, va retrouver Denver.
Ouais, c'est
pas
ça.
Simple. Non, alors que celui qui perd là, bon, elle risque de sortir sur le match d'après, mais elle a la potentialité de jouer au KC aussi. Et je sais qu'il y en a plein, je vous vois, qui aime faire ce calcul, de se dire c'est peut-être mieux de jouer au KC que de jouer à Denver.
Personne ne va faire de calcul mardi.
Sur le play-in, tu peux pas.
Non.
Tu peux pas te permettre ça, ouais, parce que
la saison qui est en vie, là.
Tu te rends compte, ça veut dire que...
Il y a encore une chance derrière.
Tu joues ta vie sur un match face aux Warriors ou aux Kings, tu joues pas à ça.
Non, tu joues pas à une chance.
Il n'y a pas de calcul.
En affrontant le champion.
Ouais, ouais.
Comme tu dis, il y en a qui se poseront la question.
Il y en a qui se poseront la question, mais les joueurs et les coachs ne se la poseront pas.
Alors je note ceux qui vont pour vous donc du coup perdre, c'est plus les Lakers pour
moi je donne avantage Pelicans sur ce match.
Je donne avantage Pelicans.
Ah, donc les Lakers pour tous les deux qui perdent. Je note les perdants parce qu'évidemment on reviendra dessus après.
Parce que j'aurai la chance d'être le premier rang. C'est moi qui fais le match demain.
Et ouais, tu le commentes en plus. Hein.
Je commente le match.
Forcément. On passe à l'autre match. Donc le perdant de ce Lakers-Pelicans affrontera le vainqueur de Kings-Warriors, qui se jouera dans la foulée, toujours dans la nuit de mardi à mercredi à 4h du matin. Sacramento a donc fini 9e quand Golden State termine 10e. Une confrontation qui nous rappelle un peu le premier tour des playoffs l'an dernier.
Magnifique.
Ouais, oui. Où la bande de Steph Curry l'avait finalement emporté 4-3. Est-ce que sur un match, un an après... on peut s'attendre à la même chose.
L'histoire n'est pas la même. Un an plus tard, les Warriors ont vieilli un peu, mais ont rajeuni leur effectif avec la montée en puissance des Podziemski, des Kuminga, des mecs comme ça. Sacramento est sur une spirale très négative. On se demande un petit peu ce qu'ils nous font sur cette fin de saison. Eux qui ont régalé l'année dernière, qui ont régalé la première partie de l'année et qui, depuis le All-Star Break, sont un petit peu en train de se perdre. Alors, il leur manque du monde. Malik Monk, c'est terrible, qui n'est pas là, évidemment, celui qui va peut-être être meilleur sixième homme de l'année. J'ai l'impression que la dynamique fait que les Warriors seront favoris de ce match.
La dynamique sur la fin de saison.
La dynamique des Kings.
Plus que sur l'expérience ou.
En termes d'expérience, tu en retrouves des deux côtés, plus côté Warriors évidemment, mais les Kings ont perdu beaucoup de matchs dernièrement et des matchs bizarres. Je veux dire, ils ont laissé filer des trucs plusieurs fois. On s'est dit, mais qu'est-ce qui leur arrive? Ça joue pas très bien au basket. Werther leur manque peut-être un peu, Malik Monk leur manque beaucoup. Moi, je te maintiens que cette dynamique, au moment de rentrer sur un match qui est décisif, c'est catastrophique d'arriver avec cet état d'esprit-là. Donc, moi, sur la dynamique, je donne l'avantage aux Warriors.
Chris.
J'étais tellement déçu cette année par les Kings. C'est vrai qu'on a du mal à les voir passer contre une équipe. Effectivement, les Warriors, avec toute leur expérience, un Klay Thompson qui se réveille au bon moment, Draymond Green qui est sur du bonne conduite, qui aide les jeunes un petit peu à progresser, qui est présent défensivement. Et la seule chose que les Warriors peut pas craindre, les Warriors, c'est l'équipe le plus petit du championnat. Ils jouent le plus petit. Voilà, y a pas de...
C'est comme ça qu'ils ont gagné depuis des années.
L'avantage des Kings, mais qu'il a déjoué des fois, c'est d'avoir ce match à domicile. Sacramento est un des endroits le plus chaud, le plus fort, le plus fort en ambiance. Ils auront besoin de ça, les Kings. Je pense que l'échec de l'année dernière va faire en sorte qu'on va avoir une équipe extrêmement, extrêmement motivée. Ce qui m'inquiète un peu pour Sacramento, c'est Mike Brown. Je suis pas fan du tout.
T'es déçu de ce qu'il a fait sur cette
fin
d'année.
Il est dans mon all nul team comme Bickerstaff, tu vois. Donc
la all nul team.
Voilà.
c'est une nouvelle catégorie.
Staff, voilà.
On va demander à la
NBA. Non, mais pour dire franchement, je pense que l'expérience des Warriors va faire en sorte qu'ils passent.
Eh oui, forcément.
On est d'accord pour l'instant, donc incroyable.
Forcément, un mec comme Steph Curry, quand même, sur un match, il peut faire la différence.
Oui, puis les Kings, ils n'ont pas cette confiance, cette régularité pendant la saison régulière. Encore une fois, pour moi, c'est une déception. Je les voyais plus haut, pas en train de souffrir là dans un play-in.
Ah oui,
donc, la progression n'est pas là. Et l'assurance n'est pas là non plus, que ce soit entre, je pense, le staff et les joueurs. Je ne pense pas que ça, comment on rentre psychologiquement dans un spirale positif.
Chris parlait quand même de la raquette, de la taille des Warriors. Un Domantas Sabonis, quand même, est-ce qu'il ne peut pas faire un peu de dégâts
Domantas Sabonis, tu sais ce qu'il apporte, ce mec-là. Tu n'as jamais de surprise avec lui. Ouais. C'est un mec qui est d'une régularité incroyable. Il apportera son double-double, ça je te l'annonce.
Oui,
est-ce qu'il mettra 20 points ou 14, on verra. Mais il aura ses 12-13 rebonds. Il va faire du boulot intérieur, il va faire du chantier, il va faire son travail au sol, il va mettre ses petits hooks, il va mettre ses petits drives et ça fera du bien. Mais c'est pas une bascule dans un match, quoi. Une bascule, c'est D'Aaron Fox qui va t'en mettre 40. Ça, c'est une bascule. Une bascule, ça peut être un mec qui va prendre feu chez les Kings. Et voilà. Sabonis, c'est un métronome, en fait. C'est un mec, t'as besoin qu'il soit à son niveau, mais il va rarement l'exploser, ce niveau-là. Donc, je suis pas persuadé que ce soit ça, la bascule.
Non, pour moi, le bascule va être comment il va se comporter. Murray, Keegan Murray, parce qu'il est souvent la clé. Sacramento, c'est une équipe, et surtout sur un match comme ça, qui doit être à droit. À trois points. C'est là leur source, leur alimentation offensive, il va venir de là. Et ça va leur donner cette confiance que je parle, qui manque. Imaginons que Keegan Murray commence le match, il rate ses premiers 4-5 shoots à trois points. Il n'a pas le mental aujourd'hui pour surpasser ça. Steph Curry, il peut en rater 17 de suite. Je peux vous dire, ça ne va pas l'affecter du tout.
Il ne sera pas trop, non.
Voilà. Donc, ouais, je pense que les Kings, c'est là, les Hurters et tout ça, tout ce qui est autour. Harrison Barnes, voilà, c'est des joueurs qu'eux, il faut qu'ils soient bons. Sabonis, je suis entièrement d'accord avec Rémi, il va faire un double-double. À quel niveau, on ne sait pas, mais il va le faire. Mais ce n'est pas ça qui va, voilà, qui va assurer une victoire pour les Kings.
Bon. Bah, je vous vois venir, forcément. Si c'est les Kings qui perdent, ce serait donc un Lakers-Warriors, si mes calculs sont bons.
Oh, quel régal.
Forcément.
C'est devenu le classique du play-in, celui-là. Ça fait quoi, 3 ans? 2 ans d'affilée, déjà, l'année dernière, il y a 2 ans? Ou 3 ans?
Et l'année dernière, ils s'étaient retrouvés, du coup, en finale.
Non, mais on l'en veut aussi, parce qu'on a envie de profiter. T'imagines les légendes qu'ils vont avoir sur le terrain en même temps.
L'enjeu, ça veut dire que soit Steph Curry, soit LeBron n'ira pas en play-off.
Non, t'imagines un play-off sans... Voilà, non, c'est... Mais bon, je pense que si les choses se passent comme ça, malheureusement, on y va droit.
Mais c'est l'intérêt du play-in aussi, et c'est la beauté de la NBA, cette conception du play-in là, qui nous fait vibrer pour un match qui, au final, serait, si ça se passe comme ça, un match entre le 8e et le 10e, ce qui sur le papier n'est pas super sexy, mais tu te retrouves avec Lakers Warriors, avec LeBron contre Steph Curry, pour aller en play-off, le winner en play-off, le loser go home. Bah, c'est splendide d'enjeux, d'excitation, tu vois, pour nous, amoureux de NBA, bah, c'est une réussite totale. Parce qu'avoir un match comme ça décisif, on parle juste de rentrer en play-off à la 8e place, tu te rends compte?
Ouais, c'est incroyable.
Ouais, parce qu'on ne peut pas avoir mal au cœur pour eux quand même. Heureusement pour eux que le play-in existe.
Bah, voilà.
Parce que sinon, ils ne méritent pas.
Ah bah là, Steph Curry sera en vacances.
C'est très dur de le dire. Mais aujourd'hui, ils sont sauvés par ça. Mais ils ne méritent pas qu'on... Voilà, ils sont aujourd'hui au fond du truc. Donc, s'ils s'en sortent, c'est grâce à un règlement qui était mis en place. Mais ils ne méritent pas plus de considération que les équipes qu'ils ont fini au-dessus.
Et moi, je tiens à rappeler un truc, parce que je vois beaucoup cette narrative là sur les réseaux sociaux de... Ah, mais attention, OK, s'ils finissent premier, mais s'ils se mangent les Lakers ou les Warriors au premier tour, attention, machin. Il faut qu'on arrête avec ça. Aujourd'hui, on parle du premier de la Conférence Ouest contre celui qui va être classé au final 8e de la Conférence Ouest. L'enjeu sportif d'une saison régulière NBA veut dire quelque chose. Si les Lakers ou les Kings ou les Warriors ou les Pels, peu importe qui sortira à cette 8e place au final, c'est qu'ils ont mérité d'être huitième. OKC, s'ils sont premiers, c'est qu'ils ont mérité d'être premiers. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, OKC est beaucoup plus fort que n'importe laquelle de ces équipes qui va sortir. On va arrêter de me dire, c'est les Lakers, il y a LeBron, ils seront favoris face à OKC s'ils sortent. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi.
D'accord. Dans tous les cas, que ce soit les Warriors ou les Lakers,
OKC sera favori. OKC est premier, a mérité sa première place. On leur doit ce respect-là.
On est d'accord. Un petit vainqueur, du coup, entre les Lakers et Warriors, je ne vous ai pas trop entendu.
Les Lakers, évidemment, quelle question.
Évidemment, non, mais il y a les limites à ma compréhension.
Hein. Non, on plaisante, mais évidemment que tout le monde peut passer sur un match comme ça, c'est presque une pièce en l'air. Maintenant, j'ai quand même l'impression que LeBron James s'est habitué à ces matchs décisifs en play-in, que ça lui plaît bien. Ouais. Ils sont dans un certain confort par rapport à ça. Et on ne va pas se mentir, la dynamique de fin de saison des Warriors, qui a retrouvé un petit peu de couleur par moment,
ouais.
est moins belle que celle des Lakers, qui ont fini très fort pour le coup. Donc moi, avantage Lakers.
Oui, c'est exactement pareil. Enfin, quand on regarde cette équipe de Lakers, on comprend, hein, on est déçu. Quand tu vois le roster en début de saison, même s'ils ont eu quelques blessés clés, je pense que Vanderbilt était une blessure qui a fait très mal aux Lakers, parce que c'était la stabilité défensive. Gabe Vincent, ça leur a manqué beaucoup au niveau de l'organisation, la création. Mais quand tu regardes cette équipe de Lakers, quand tu vois la saison qu'il a fait LeBron James, qu'on a tendance à sous-estimer, il a fait une énorme saison. Anthony Davis n'a jamais autant joué. C'est vrai, on le critique pas par moment, mais c'est vrai qu'il a jamais autant joué. Et puis il a fait des gros matchs hier. Il fait un gros match.
Qu'est-ce que se passe?
Ah non, mais je parle
de Lakers, il s'énerve. Tu
donnes une claque à Anthony Davis pour qu'il se réveille.
Mais le micro n'est pas tombé, donc c'est peut-être une bonne chose pour les Lakers.
Non, mais je pense que les Lakers finissent très fort la saison, comme ils auraient dû commencer la saison. Mais bon, c'est comme ça.
Bon, on verra. En tout cas, là, l'Ouest, ça part déjà en feu d'artifice. On passe à l'Est, qui a aussi pas mal de choses à nous réserver, avec deux matchs qui nous attendent mercredi, cette fois-ci. Ça commencera par un alléchant Sixers Heat à 1h du matin. Est-ce que Miami et Jimmy Butler sont partis pour refaire le run de l'année dernière? Mais attention, cette fois-ci, il faudra passer l'énorme obstacle Joel Embiid, dont il reste une incertitude quand même sur son physique. Le vainqueur affrontera New York, qui a fini deuxième au buzzer dimanche en surpassant les Bucks. Votre favori, messieurs, entre ces deux
équipes. C'est les affiches.
Philadelphie.
Non, mais c'est on va rentrer dans le dur là, parce que Embiid, bon, c'est vrai, il est revenu, mais là, tu vas rentrer dans une série. Il y a un match où il faut répéter les performances, qu'il faut être physiquement.
Enfin, la série, s'ils y arrivent, il faut déjà sortir du play-in pour arriver
ouais,
à la
déjà,
série.
Oui, non, mais je pense que Philadelphie, voilà, on sait pas parfaitement bien. Ça ira aussi bien que Embiid. Maxi peut mettre 60 points, c'est pas ça qui va faire gagner le match. Maxi, Embiid ensemble, ça change tout. Avec tout ce qu'il y a autour, les Kelly Oubre, c'est Rice, c'est une équipe quand même qui a des arguments. Un Buddy Hield qui va peut-être commencer à mettre quelques paniers dedans. Donc, c'est vrai que c'est une équipe qui a des armes. Mais ça dépend de Embiid.
Bien sûr. Si Joel Embiid peut jouer 30 ou 35 minutes mercredi soir face à Miami, les Sixers gagneront ce match. Ils seront au-dessus, en tout cas, je pense. Miami a cette aura en fait, d'équipe de play-off qu'on leur accorde, qu'ils ont mérité. Puisque l'année dernière, ils ont fait ça. Ils ont fait play-in, ils finissent en finale NBA. Donc, bravo à eux. Mais on ne va pas se mentir, la saison a été très difficile cette année. On attend tous de voir Jimmy Butler en mode play-off. Je serai le premier à demander à être séduit, mais je suis un peu plus sceptique que les années précédentes. Je pense que Philadelphie est plus fort sur le papier et plus complet aujourd'hui, à récupérer des mecs comme Nico Batum qui font parfaitement le travail. Maxi est monté en gamme évidemment cette année. Je pense que Philly est plus fort et doit passer face à Miami.
Oui, Miami et Jimmy Butler, à force de faire le bluff. Parce que lui, c'est chaque fois, c'est tu vas voir pendant les playoffs, tu vas voir, on va être prêt, tu vas voir, moi, je vais faire ça, ceci, cela. Je pense que ça va être l'année trop. Miami peut pas à chaque fois passer par ces trucs-là. À un moment donné, ça va être le plus fort et je pense pas que Philadelphie est en manque de confiance. Surtout quand tu retournes et tu vois qu'Embiid est là et ouais, quand il est revenu, c'était pas 6 points et 3 rebonds. Hein. Il est revenu avec le même impact
qu'il avait. Il a pris ses 30 points, il a pris ses 15 rebonds.
Il a pris ses habitudes.
Et logiquement, il pourrait jouer tout le match.
Il est censé jouer mercredi. Il a annoncé comme ça. Ils l'ont protégé hier en le faisant pas jouer ce dimanche. Il est censé être là pour ce mercredi. Maintenant, c'est Joel Embiid, on se méfie.
Oui, parce que quand tu regardes autour de Miami, il y a Bam Adebayo qui n'est pas très grand. C'est un vaillant. Eh bien, c'est un match-up qui va être intéressant dans les deux sens. Lui, il va avoir du mal avec le poids et l'impact de Joel Embiid à l'intérieur. Mais par contre, Embiid aussi, Bam Adebayo, qui joue un petit peu à 2-3 mètres. Il a un petit shoot, mais il est très actif. Donc, il va falloir le suivre. Il court. Ce match-up-là, il va être primordial.
Bon. Donc, plus le...
Moi, je suis Philadelphie, voilà, qui passe.
Je note. On passe au dernier match, du coup, de mercredi, entre, cette fois-ci, les Bulls et les Hawks. Alors, on le savait déjà depuis un petit moment. Ce sera à Chicago. Avantage, justement, Chicago, selon les dernières dynamiques.
Ouais, ça a du sens. Chicago joue bien au basket en ce moment. C'est surprenant à dire pour une équipe qui nous a quand même sacrément déçus cette année une fois de plus.
Ouais.
Mais ça joue bien au basket, sans Zach LaVine, on sait, mais avec un Coby White qui a pris la main vraiment de manière ferme à Chicago. Avec un Vooch, moi ça me fait plaisir, Nikola Vucevic qui finit très très fort sa saison et je suis content pour lui parce que vous savez que je suis assez proche de lui et c'est un mec qui est très motivé, j'en parle un petit peu. Il veut aller en playoff, il veut jouer aussi longtemps que possible. Il est motivé pour les JO cet été, essayer de qualifier le Monténégro. Il est motivé pour emmener cette équipe de Chicago le plus loin possible. C'est un mec qui aime le basket et donc je peux vous assurer qu'il va laisser sa vie sur ce match-là face à Atlanta. Une équipe d'Atlanta qui est un mystère éternel et où j'espère sincèrement que les choses vont enfin bouger cet été. Laissons-les finir leur saison tranquillement, mais il va falloir que ça change cet été. Avantage Chicago pour moi, oui.
Il y a l'incertitude très longue à Atlanta, Chris, peut-être, qui revient, mais qui peut sur un match aussi prendre feu.
Il y a toujours des incertitudes avec Trae Young, même quand il est en bonne santé. On ne sait jamais ce qu'il va faire. Capable, gros talent offensif, mais qui n'a jamais montré un leadership positif dans cette équipe-là. Pour moi, Quinn Snyder n'a eu aucun impact. En arrivant, en disant qu'il va faire, voilà, il va faire ceci, cela.
On peut se poser la question, hein. Ça fait deux ans maintenant, il a changé quoi?
Voilà.
T'as raison.
Il me fait penser beaucoup à Doc Rivers, qui a rien changé à Milwaukee, surtout dans la domaine. Et c'est vrai que c'est compliqué en NBA. C'est pas université où tu t'entraînes tout le temps. Mettre une assise défensive, pour moi, c'est pratiquement impossible de commencer à le faire le mois d'avril ou le mois de mars. Donc voilà, je crois que cette équipe dans Atlanta est une honte défensivement. Si tu regardes leur match, tu dis, mais c'est pas possible. Les mecs, ils font pas d'effort du tout. Non seulement individuellement, ils pensent à une chose. C'est d'avoir le pelota et puis aller marquer des points.
La pelota. Qu'est-ce qu'il y a le temps d'incroyable.
Espagnol, moi.
Je suis le Baba Bayel, moi. Oui, tu sais bien.
Et basque de cœur, bien sûr.
Non, voilà. Donc, je pense que Chicago, avec cette expérience, avec un DeRozan, Coby White qui a fait une super saison, le Vooch à l'intérieur, je pense que c'est une équipe voilà, qui a ce qu'il faut pour passer.
Donc, ça nous ferait un hit Bulls pour le match du vendredi qui serait donc la huitième place en fait, qui pour affronter ensuite Boston. Ça s'annonce encore un beau match de l'Est comme on les aime. Quoi.
Alors oui, t'as raison, ce serait du vrai Eastern Conference Basketball, ouais. Ça, complètement labellisé. Faut pas s'attendre à un match à 140 points. Mais sur le papier, clairement, Miami est favori. Bah, tu sais quoi, moi, je crois que je serais presque prêt à donner mettre une petite pièce, un petit crédit aux Bulls pour essayer de l'arracher, celui-là. Ils seront pas favoris, je l'entends. Jimmy Butler en face, c'est fort. Bam Adebayo, c'est All-Star. C'est des joueurs d'un niveau supérieur à celui de Chicago. Mais je sais pas, sur l'impression, le ressenti que m'a donné Chicago dernièrement, le match de dimanche face aux Knicks, où ils se sont battus jusqu'au bout sans aucun enjeu. Ils ont bien joué au basket avec un Caruso qui joue le cœur ouvert complet sur le parquet du Garden. Je me dis qu'il y a peut-être un petit monde où Chicago peut taper Miami et aller en play-off cette année.
Ce serait pas...
Ouais, parce que ce qu'on a vu hier, c'est vrai, les Bulls, ils ont montré vraiment une image très positive dans un endroit très difficile contre une équipe qui avait de l'enjeu. Jamais oublié que les Knicks jouaient pour finir deuxième.
Bien sûr.
Ils n'ont pas lâché rien du tout. Ils étaient bien présents. Donc les Bulls, oui, c'est vrai qu'ils montrent une image beaucoup plus séduisante qu'ils ont fait pendant les deux tiers de la saison. Ça finit bien et je crois énormément dans ces vagues positives. Alors, on amène ça tout le temps avec nous. Il peut y avoir un spiral négatif. Miami, je répète, je dis encore une fois, j'y crois plus dans leur discours, je crois plus dans leur truc. On va passer comme ça, on va être champion comme ça. Aujourd'hui, Jimmy Butler, pour moi, a beaucoup moins d'impact qu'il y avait l'année dernière. Voilà, je trouve le roster un peu light, beaucoup trop de shooters avec Robinson, Tyler Herro, tout ça. C'est pas très compatible et défensivement, c'est souvent à la rame. Donc, je pense que Chicago a tout ce qu'il faut pour créer un upset, hein, parce que tout le monde.
Ça serait
un upset.
Oui, hein. Parce que c'est ça. Le fond du fond, c'est que moi, je suis assez d'accord avec Chris. Et je vous l'ai dit, de toute façon, que moi, je pouvais tenter de parier, de miser sur Chicago sur ce coup-là, mais ce serait un upset. La vérité, c'est que Miami va peut-être nous faire tous mentir et comme chaque année, et ils vont, ça se trouve, taper Philly au premier match et se retrouver face à New York à nous refaire un exploit, passer un tour. On l'a vu l'année dernière. Moi, je me méfierais toujours avec eux. Mais il y a un moment où Chris a raison, ce fonctionnement a des limites. Il y a bien un jour où ça va s'arrêter, ouais. De finir 9e de la saison et d'aller en finale NBA, ça passera pas chaque année, je veux dire. Tu vois.
On verra. En tout cas, là, si il gagne ce match-là, il jouerait encore Boston au premier tour.
S'il perd Philly, qui gagne le deuxième.
Le retour de la finale de conférence de la saison dernière.
Et quelle finale.
Bon, eh bien, en tout cas, on va suivre ça cette semaine sur Beansport et ça risque de bien nous occuper. Pour finir, il nous reste 4-5 minutes. Il est quand même important de dire un petit mot sur la première saison de Wemby en NBA. Elle est tout simplement vertigineuse quand on regarde ses statistiques. 21,4 points par match, 10,6 rebonds, 3,9 passes, 3,6 contre, leader de la NBA, et 1,2 interceptions en 71 matchs joués sur 82. Et j'avais une petite question. Si vous deviez définir sa saison en un mot, alors vous aurez le temps ensuite de nous expliquer, mais en un mot.
Spectaculaire.
J'allais dire prometteuse, mais c'est même pas suffisamment fort. Vous voyez l'idée, c'est ultra prometteuse. Ouais, voilà.
Vous auriez pensé pouvoir dire ces mots-là en octobre?
On l'avait sans doute espéré, mais je pense qu'il a, à minima, pour les plus sceptiques d'entre nous, satisfait nos attentes. Et si vous êtes un petit peu plus honnête et objectif, il a dépassé tout ça. C'est une première saison qui est magnifique. Victor, il a montré des choses alors ponctuellement fantastiques. Quand il met 40 points aux Knicks, en tout début de saison, quand il en met 38, je crois, à Phoenix et qu'il gagne le match, deux fois d'affilée d'ailleurs, face à Phoenix. Des highlights de fou, des contre deux partout, des dunks qui ont circulé sur la terre entière sur les réseaux. Il a montré une maturité, il a montré cette capacité à répéter des matchs, 71 matchs, tu l'as dit. Ça c'est important comme stat. On était très inquiet avant sur sa capacité à jouer, combien il jouerait cette année, 50, 55, 60, 65 matchs. Bah, 71, bim, dès la première saison, sachant qu'ils lui ont pas fait jouer le dernier parce que c'est vraiment histoire d'eux.
Qu'il aurait pu quasiment tous les jouer en fait. Il a eu
2-3 petits pépins, mais minimes vraiment. Donc voilà, moi je suis ravi parce que Victor est en train de conquérir la planète basket comme on l'avait rêvé sans doute. Et c'est tellement prometteur parce qu'on a envie de croire depuis 2-3 ans, qu'on a 15 ans de domination de Victor devant nous, mais on a tous ce petit doute au fond de nous de se dire mais s'il se blesse, mais si ça se passe pas comme prévu, etc. Que dalle, il n'y a pas de doute en fait. Il va dominer la planète basket pendant 15 piges.
On est d'accord.
Tout à fait. De toute façon, j'appellerai le professeur Wemby. Il nous a montré cette capacité d'analyse et on sait que c'est un étudiant du jeu. Et là, quand je dis spectaculaire, ça, on est à peu près sûr, les finitions, les contres, qu'on allait voir ça de temps en temps. Aucun moment, on pensait qu'il aura autant d'impact dans le jeu techniquement. Physiquement, c'est vrai qu'il a tenu, parce que je pense qu'il prend soin de lui-même. Il sait ce qu'il faut. Il est bien entouré. Il est bien, finalement. Je n'étais pas trop d'accord avec Popovic au départ, de manière qu'il disait, on va le laisser faire, on va faire ceci, cela. Il a commencé par jouer 3, il a joué 4, il a fini par jouer poste 5. Ça, pour un jeune garçon, il faut être vraiment équilibré. Il faut faire tous ces changements pour analyser qu'est-ce qu'il fallait à chaque poste, voilà. Et finalement, on a trouvé qu'en poste 5, pour son première année, c'était probablement le meilleur chose à faire. Et en fonction de ça, il a développé un petit peu son shoot extérieur, moins pressé, plus précis, meilleur choix. Tout au long de la saison, on a vu une progression, non seulement dans son jeu, mais dans sa réflexion. Moi, j'étais vraiment impressionné par ça, sa manière de s'adapter à toutes les situations, d'analyser toutes les situations, les bons et les mauvais. Parce que ça, il faut avoir la capacité de le faire.
Trouver, stage-là, bien sûr,
trouver un juste milieu entre quand tu mets 35 points et quand on met 12 et tu fais 3 sur 12 au shoot et revenir le lendemain ou le soir, le lendemain et revenir et continuer à travailler et comprendre pourquoi. Donc là-dessus, vraiment top.
Maintenant, si on veut être un peu pragmatique et se projeter un peu, on a le droit hein, déjà sur la saison prochaine, l'an 2 de Wemby en NBA du coup. On va attendre de lui désormais cette capacité à faire gagner. C'est-à-dire que là, on l'a vu, comme a dit Chris, progresser et devenir un grand joueur de basket, puisque c'en est un et c'en sera encore un plus grand, je l'espère. Mais maintenant, on va vouloir qu'il fasse gagner son équipe. Alors,
lui aussi, d'ailleurs.
C'est lui ce aussi n'attend que ça, évidemment. Il veut gagner des matchs. San Antonio va avoir un pic de draft élevé. On saura le 12 mai, je crois, la draft loterie, quel pic ils auront.
Ils ont été un peu moins bons en ayant gagné
les matchs. Ils ont gagné des matchs à la fin. Oui, c'est dommage pour eux. Mais bon, écoute, c'est le sport. Moi, je suis content. Je préférerais toujours quand vous gagnez des matchs.
Du coup, ils égalisent les 22 victoires de l'année dernière.
Ils en reviennent à ce niveau-là. Maintenant, l'année prochaine, on va peut-être être un petit peu plus regardant, au lieu de regarder juste les stades de victoire, sur le chiffre, le nombre des victoires. C'est-à-dire que, je ne suis pas en train de vous dire que l'année prochaine, il faut que ça joue les playoffs absolument. Mais si ça me fait moins de 30 à 35 victoires l'année prochaine, ça va me titiller un petit peu.
Oui, parce que tout le monde va avoir cette réflexion. Maintenant, on a vu le joueur, on l'a excusé à San Antonio, plein de choses. De gagner seulement
22
matchs. Ouais. Mais ça ne durerait pas une éternité, ça. D'accord, il faut un retour à un certain moment. Est-ce que ce joueur est capable de changer une équipe avec, évidemment, un apport qui doit faire un retour. Celui qui a probablement fait ça il y a longtemps, et c'est Shaquille O'Neal quand il est arrivé à Orlando. Ils sont passés, je crois, de 20 à 40 ou un truc comme ça. Donc, c'est vrai, on attend un petit peu qu'il a cet impact-là, dans un petit peu différent. Shaq, c'était un monstre, machin, physiquement. Victor, c'est un monstre physiquement, mais à 2m25. Donc, à partir de là, on va attendre qu'il fait gagner des matchs. Ouais, on va attendre l'attente maintenant. Pour moi, c'est la prochaine étape. Si Chet Holmgren peut le faire, pourquoi lui ne pourra pas le faire? Parce qu'il n'a pas chié, évidemment. Ça c'est une chose.
Ça aide un peu.
C'est pas trop dans le. De ramener une grosse.
Non, mais t'as pas besoin de ramener une star cet été. T'as une équipe jeune là, qui est en train de progresser, à commencer par Victor. Je vous dis, ils vont avoir un pic élevé de draft. Alors, je sais bien que c'est une draft homogène, il n'y a pas de nouveau MB qui arrive. Mais a priori, t'as quand même un fort pic de draft qui peut te renforcer. C'est censé être le but.
Regarde ce qu'il fait Orlando. Orlando ne le fait pas avec des stars.
Ils ont pas recruté l'année dernière. Orlando, il a raison, Chris, et ils ont augmenté considérablement leur capital de victoire. Donc voilà, là c'est juste une équipe qui est en train de grandir. C'est le projet Greg Popovich. On est patient. Ils seront pas champions NBA l'année prochaine. Je suis même pas sûr qu'ils feront les playoffs l'année prochaine. Mais je vous dis, moi je mets une barre à minimum 30 victoires et si ça peut être 35 l'année prochaine, ce serait mieux.
Bon, en espérant peut-être qu'ils participent justement à ces play-ins qu'on suivra donc cette semaine de mardi, mercredi et vendredi. On vous laisse aussi avec NBA Extra tous les jours pour analyser tout ça.
Of course.
Et yes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. On sera déjà dans les playoffs, tellement ça va vite. En tout cas, vous avez le temps aussi de noter et de commenter ce podcast. Et on vous laisse. À bientôt.
Merci. Ciao Baptiste. Beaucoup. Oh my goodness, my goodness.